There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Bienvenue sur Build Yourself, le podcast dédié au marketing digital. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je me suis découvert une passion pour le podcasting, l'emailing, les différentes stratégies de visibilité et j'en passe. À travers mes épisodes, je vous partage des éléments dont vous aurez besoin pour non seulement développer votre activité, mais aussi et surtout construire la vie de vos rêves. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Vous le savez peut-être, j'ai sorti un livre le 30 août 2022 qui s'appelle « Build Your Podcast, le tremplin pour construire un business rentable » où je vous expose de A à Z ma méthode pour lancer votre podcast et faire connaître votre activité, qu'elle soit dans le digital ou dans le physique. Ça a été une expérience très riche pour moi puisque j'ai découvert pour l'occasion le monde de l'édition qui était totalement flou. Je vous ai d'ailleurs enregistré un épisode de podcast où je vous parle finalement de toutes les étapes par lesquelles je suis passée. C'est l'épisode 197 de ce podcast et je vous mets le lien dans les notes si jamais vous avez envie de le découvrir. Mais je me suis dit que ce serait aussi très cool d'avoir l'autre sphère de cette aventure et donc d'interviewer mon éditrice, Émilie Le Rebourg, de la maison d'édition Vuibert. Et donc dans cet épisode, eh bien, vous allez découvrir dans un premier temps son parcours et ce qui l'a amené vers le monde de l'édition. On va parler des différents process de création d'un livre, de la sélection. Comment est-ce qu'une maison d'édition, ou en tout cas Vuibert, choisit les sujets de livres, les auteurs? Comment faire si on a ce désir d'écrire un livre et qu'on souhaite contacter des maisons d'édition mais qu'on ne sait pas du tout comment faire? Bien, vous aurez toutes les réponses dans cet échange. J'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Émilie, bienvenue sur Build Yourself, comment vas-tu?
Salut Safia, et bien écoute, très bien, ça me fait plaisir d'être avec toi.
Ben moi aussi, merci d'avoir accepté mon invitation. Je dois t'avouer que j'y pensais depuis un petit moment, genre depuis cet été, et je me suis dit bon, on va se caler, on va le faire, parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir une éditrice sur le podcast, et tu vois, apporter, comme vous êtes pas mal spécialisée sur l'aspect business, entrepreneuriat, professionnel, etc., je trouve que c'est d'autant plus opportun de t'avoir sur mon émission, quoi.
Ben, ravie de partager ce moment avec toi et avec tous ceux qui écouteront.
Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien me parler un peu de toi? Comment est-ce que tu es devenue éditrice? Est-ce que c'est un métier que tu as toujours rêvé de faire? Ou est-ce qu'il est arrivé un peu par le fil des choses et au hasard?
Bonne question. Bah, j'irai un peu des deux, en fait. Et quand je me replonge dans mon parcours, moi, j'ai fait une fac, comme on disait à l'époque, une fac d'économie. En fait, donc je suis allée jusqu'en DEA d'économie, c'était hyper intéressant. Et puis après, je me suis dit, bon, maintenant, que vais-je faire avec un DEA d'économie? Et là, je suis revenue, je dirais, à des, des sujets ou une envie et un amour des livres qui, là, me tenait depuis que j'étais, on va dire, toute petite. Hein, et je pense que beaucoup d'éditeurs, bah, c'est un peu bateau de dire ça, mais aiment lire. Et voilà. Et donc, y a eu pas mal de réflexions et je me suis dirigée vers le monde de l'édition, un peu en tâtonnant au départ, parce que moi, dans mon... autour de moi, j'ai pas de grands frères ou de grandes sœurs ou de parents éditeurs. Et puis, c'est vrai que c'est un milieu qu'on connaît pas forcément. Mais voilà, en allant vers l'entrée libre, j'ai d'abord fait un stage dans un service presse. Et puis, ça m'a confortée sur le fait que c'était un secteur qui m'attirait. Et après, en fait, j'ai fait une formation, un an de formation dans une école, un master dédié au management de l'édition, donc à l'ESCP. Et là, ça m'a encore plus confortée et en voyant tous les métiers possibles, évidemment le marketing, la presse et puis surtout la partie éditoriale. Et là, je me suis dit effectivement, c'est ce que j'ai envie de faire, ce côté projet et vraiment le métier d'éditeur. En tout cas, ce que j'en avais déjà vu dans ma formation m'attirait. Et voilà, suite à ça, un stage. Et là, j'ai pu rentrer dans le monde de l'édition.
Eh bien, ça tombe bien que tu mentionnes ça. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ton job? C'est quoi une éditrice et qu'est-ce qu'elle fait?
Alors, mon job, il est hyper riche, varié. Donc, moi, j'avoue, c'est un job que j'adore, hein, comme beaucoup, beaucoup d'éditeurs. Après, je pense que selon, je dirais, les marchés, les types de livres, les secteurs d'activité, on ne met pas tout à fait exactement les mêmes missions derrière le métier d'éditeur. Donc, un éditeur dans un autre secteur te répondra peut-être un peu différemment. En tout cas, nous, dans le monde de la gestion du business, le métier d'éditeur, c'est de trouver des sujets et des auteurs ou des auteurs et des sujets pour publier sur les thématiques que l'on a identifiées comme porteuses, intéressantes, pour lesquelles il y a une attente de la part de ce lectorat du monde, de la gestion, du business, de l'entrepreneuriat. Voilà, puisque effectivement, les champs que l'on couvre, nous, avec l'équipe, sont assez larges, mais plutôt liés au monde du business et donc au monde du travail. Donc, soit pour améliorer son métier, hein, vraiment sa fonction, donc en marketing, en ressources humaines ou autre, soit pour s'améliorer dans son travail, donc plutôt des livres d'efficacité professionnelle, gestion du temps, ceci, cela, soit des livres liés à l'entrepreneuriat, parce que c'est un secteur, et ça, tu le sais bien, extrêmement dynamique en France. Donc voilà, ouais. Donc, il y a beaucoup d'attentes là-dessus et puis il faut évoluer très vite. Et donc, effectivement, par exemple, comme ton ouvrage, qui est associé à cet univers-là. Donc, le travail d'un éditeur dans nos domaines, c'est effectivement d'identifier les sujets sur lesquels il y a des attentes en termes de par rapport à notre au lectorat qu'on identifie, identifier les sujets, trouver les bons auteurs, des auteurs qui ont envie d'écrire, qui ont la capacité d'écrire, qui soient disponibles pour écrire, et puis d'accompagner ces auteurs du moment où il y a l'idée jusqu'au, et là c'est là que, et ça tu le sais, jusqu'au BAT final, donc il y a plusieurs mois, hein, ça peut être je dirais de 10 mois, 18 mois, des fois 2 ans, jusqu'au moment du BAT final, et donc là vraiment où les fichiers partent en impression, et après on a le livre qui arrive, et on accompagne encore le livre sur la partie promotion, marketing. Il y a des équipes dédiées en interne, évidemment, dans les maisons d'édition. Mais l'éditeur, je dirais, est un peu le chef d'orchestre. Voilà, souvent, c'est ça. Hein. C'est de la gestion de projet, c'est de la gestion de projet. Mais voilà, si on devait avoir une image, c'est ce côté chef d'orchestre qui accompagne le livre vraiment à toutes les étapes de l'idée jusqu'à la commercialisation et puis même après tout le temps de la commercialisation puisque évidemment on continue à discuter, à échanger avec les auteurs, voilà. Donc c'est vraiment un accompagnement très très long sur toutes les étapes de vie du livre et qu'on souhaite la plus longue possible cette vie.
Ouais, alors bon, BAT, pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme, c'est bon à tirer. Mais alors, moi, c'est un truc, tu vois, que j'ai découvert en écrivant mon livre. C'est en fait, je ne me doutais pas du nombre de parties prenantes qu'il y avait dans la conception d'un livre. Je ne sais pas pourquoi. J'étais en mode, en fait, moi, je l'écris et puis la maison d'édition s'en occupe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens derrière. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de tenir ces deadlines. Et du coup, ton job à toi, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est challengeant parce qu'il y a quand même. Il y a la correctrice, il y a la graphiste qui va s'occuper de la couverture, il y a toutes ces choses-là, etc. Et en fait, ça fait beaucoup de monde à devoir gérer.
Ça fait beaucoup de monde et effectivement, c'est vrai que tu en parlais très bien dans ton podcast quand tu racontais ton aventure, je dirais côté ouais. Autrice. Et c'est vrai que les équipes, on l'a écouté l'épisode et c'est vrai que c'était chouette parce que c'est vrai que c'est un métier qui à la fois est connu, je dirais, parce qu'on dit voilà les livres, l'édition, mais qui n'est pas réellement connu dans ce que cela représente en termes de métier, je dirais, au quotidien. Donc effectivement, il y a beaucoup d'intervenants sur un livre, énormément, tous ceux que tu as cités. Et je dirais que ceux que tu as cités, c'est aussi ceux que tu as vus. Parce qu'en plus de ça, il y a aussi d'autres étapes, mais tu les avais cités dans ton podcast, mais il y a ce moment où on va défendre le projet en comité d'édition. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, voilà, c'est un moment très, très chouette pour les éditeurs parce que c'est là qu'on fait rentrer un projet dans la maison. Donc, tout le monde, après, doit le prendre à bras-le-corps pour le défendre. Donc ça, c'est vraiment un moment qui est très important et qui positionne beaucoup de choses pour la suite. Donc après, tout le monde, je dirais, on embarque tout le monde parce que c'est vrai que c'est un travail extrêmement collectif toutes les éléments de conception, mais de commercialisation, les équipes qui s'occupent des contrats, les équipes qui s'occupent du pré-presse, de la fabrication, de la commercialisation. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde autour d'un livre, et puis on en publie quand même plusieurs, et à des temporalités très différentes. Donc, on suit pas mal d'ouvrages. Des fois, on est tout à fait au début du process, plutôt à la fin. Donc voilà, on jongle avec... beaucoup de choses, beaucoup de planning, beaucoup d'interlocuteurs, mais c'est ce qui fait que c'est passionnant.
Ouais, je me doute. Mais du coup, c'est quoi les grands challenges de ton métier à toi? Ce qui peut être, je dirais pas qui est difficile, mais où tu vois, où il y a besoin, je sais pas, peut-être parfois de plus d'attention ou de concentration, tu vois.
Les grands challenges, le point initial quand même de tout ça, c'est le bon sujet avec le bon auteur. Donc ça, c'est vrai que la définition du projet, l'idée, voilà, parce qu'il y a aussi dans les ouvrages que l'on publie, il y a des auteurs que l'on va contacter parce qu'on se dit tiens, c'est intéressant ce que cette personne fait sur tel ou tel sujet. Voilà, on va creuser, voir s'il y a un sujet de livre. Des fois, on se dit aussi, ah tiens, ce sujet, je trouve qu'il est intéressant, je le vois beaucoup passer. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui pourrait en parler, qui aurait la légitimité pour en parler? Donc, autre façon de procéder. Et puis, on reçoit aussi des projets spontanément de personnes qui nous disent voilà, j'ai envie d'écrire sur tel ou tel sujet, est-ce que cela vous intéresse, ou j'ai déjà tout rédigé, qu'en pensez-vous? Donc le challenge initial, c'est quand même de se dire que qu'on s'embarque avec l'auteur sur plusieurs mois, et donc que ce soit le bon sujet avec la bonne personne, sachant que et tu l'as vu, les temps de l'édition par rapport notamment au temps du web ou autre, sont des temps beaucoup plus longs. Donc, il faut que les sujets choisis et identifiés à un moment donné soient toujours d'actualité 12 mois, 18 mois après. Donc, je dirais que le premier gros challenge, c'est celui-là. Après, on est En tout cas, voilà, chez l'UR, on est dans une structure qui fonctionne très bien, avec des super équipes. Donc, les étapes d'après, effectivement, les gros challenges, c'est souvent des questions de planning et de timing, voilà, hein, puisqu'on jongle avec beaucoup de choses, avec, voilà, des fois des retards de manuscrits, des fois on a eu beaucoup de sujets aussi avec les imprimeurs, hein, évidemment. Là, on sort d'une période Covid qui a été très compliquée, avec toutes les équipes partout. Donc, voilà, donc ça a rajouté une petite dose de piment supplémentaire. Mais voilà, le challenge suivant, c'est effectivement tenir les délais annoncés, puisqu'une fois que la machine, et ça, t'en parlais très bien dans votre podcast aussi, c'est qu'une fois que la machine est lancée, voilà, il faut tenir tous ces délais, puisque l'ouvrage, lui, il est attendu à une date en librairie, et voilà. Et évidemment, le troisième gros challenge, c'est celui de la commercialisation, de la visibilité, et de la communication, promotion, marketing associée à la parution du livre. Donc voilà, le choix du sujet, tenir, je dirais, ce moment de l'écriture parution, voilà, qui est long, et puis réussir à faire que le livre soit le mieux visible possible par rapport à la cible que l'on souhaite toucher à parution.
Ouais, je comprends, ça fait beaucoup de choses. Hein. Je dis vraiment, vous êtes des super-héros, parce que quand je vois le truc, je me dis, mais en plus, ils font ça avec plein de livres. Mais alors, du coup, c'est bien parce que ça me permet de rebondir sur une question. Comme tu le sais, j'ai mis une petite story Instagram auprès de mes abonnés pour savoir s'ils avaient des questions sur le monde de l'édition, etc. Et la question qui est le plus revenue, c'est comment est-ce que je fais pour convaincre un éditeur de m'éditer ? Est-ce que tu vois, tu as des conseils là-dessus ? J'ai des personnes qui m'ont demandé, est-ce que il faut que le manuscrit soit déjà prêt ? Ou est-ce qu'il faut juste proposer une idée ? Tu vois, ce genre de choses. Donc, je pense que ton retour sera très concret sur ce sujet-là.
C'est une très bonne, question, parce qu'effectivement, on reçoit pas mal de propositions spontanées en termes de publication et de projet. Ce qu'il faut... c'est un projet, je dirais, qui soit le plus abouti possible dans l'intention, la construction, le positionnement. Par contre, personnellement, et je pense qu'on est assez nombreux dans ce cas-là, un manuscrit complètement rédigé, c'est pas forcément, pour moi en tout cas, la meilleure des choses. Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est d'identifier... Enfin, que l'auteur présente, de la façon la plus détaillée possible, l'idée. C'est-à-dire qu'il réussisse à projeter le sujet sur lequel il souhaite écrire en livre. Et ça, on sait que c'est pas évident, hein, de passer de quelque chose que l'on maîtrise, je pense notamment à des personnes pour qui c'est leur travail au quotidien, ou des formateurs ou des coachs. C'est-à-dire que le sujet est évidemment extrêmement connu, hein, maîtrisé, mais le format livre, tu l'as vu, c'est autre chose, hein. Faut passer dans une structure autre. Donc voilà, donc nous, ce que pour mettre le plus de chance de son côté pour se faire éditer, c'est d'être très clair sur ce que l'on souhaiterait que l'ouvrage dise et à qui on l'adresse. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que c'est vraiment d'avoir une vision globale de son projet, sur quoi ça porte, à qui je vais parler, parce qu'on ne parle pas à tout le monde, hein, dans nos domaines. Hein, on n'est pas sur des ouvrages grand public ou du roman. Donc, à quel besoin le livre va répondre ? Qu'est-ce que je vais permettre d'améliorer chez le et les futurs lecteurs ? Donc, quelque chose de structuré, c'est-à-dire même déjà des premières idées de titre. Ça montre aussi vraiment l'intention. Donc, titre, un pitch, une dizaine de lignes, les mots-clés du projet, un premier sommaire, une première structure, et à qui je l'adresse, tous les points forts du projet en pensant bien au moment où il sera en librairie et à qui il va parler. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Après, c'est vrai que quand les ouvrages nous arrivent, et c'est pas si fréquent, hein, arrivent complètement rédigés, c'est parfois un peu plus compliqué, même quand on est en phase avec le sujet, parce qu'au-delà de l'idée, voilà, il y a une structure, des fois on réfléchit ensemble avec l'auteur sur des encadrés à ajouter, selon les types de sujets, il peut y avoir même des exercices, des coachings, des entraînements. Oui. Si on rentre dans une collection, on n'en a pas parlé, mais il y a des collections qui existent, des fois il y a des chartes éditoriales plus fortes, et donc il faut respecter une certaine structure. Après, on a beaucoup de hors-collection, mais voilà, quand c'est trop abouti, bah, c'est plus compliqué, parce que l'auteur doit, a l'impression un peu de défaire pour refaire, mais parce que la structure, ça compte. Ouais. Donc, c'est plutôt voilà, un pitch, un sommaire, tous les points forts. Regardez aussi, regardez aussi la concurrence qui existe ou pas sur le sujet, parce que là aussi, ça donne des indications de ce que l'auteur a envie ou n'a pas envie de faire. Ça, c'est très important. Il y a des sujets pour lesquels il y a très peu de concurrence. Il y a des sujets pour lesquels il y a beaucoup de concurrence, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour un nouveau livre. Comment on va le positionner différemment par rapport à la concurrence? Voilà, c'est tout ça qui permet d'avoir le plus de chances que bah, le projet soit identifié et accepté par un éditeur.
Ouais, en fait, ça ressemble beaucoup au business et aux différents aspects. Hein. Au final, c'est vraiment d'avoir une vision, de savoir ce que tu veux aborder, pour qui, etc. Donc, je pense que pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont un peu cet objectif ou ce rêve d'écrire un livre, bah, faut pas oublier en fait que faut pas venir en touriste. Faut un minimum de préparation et arriver avec un angle qui soit différenciateur finalement. Est-ce que l'aspect, enfin, qu'est-ce que vous recherchez chez un auteur au final ? Parce que certes, il y a le sujet, le positionnement, la vision du livre, etc. Est-ce que, parce que tout à l'heure, tu parlais de légitimité. Est-ce que ça passe par le fait d'avoir une certaine notoriété en ligne ? Est-ce que ça passe par le fait d'avoir, je sais pas, certains diplômes ou autres ? Est-ce qu'il y a des choses que vous cherchez en particulier ou c'est vraiment en fonction du cas par cas, quoi ?
Alors, c'est effectivement quand même du cas par cas parce qu'on publie vraiment des ouvrages qui sont destinés à des cibles très différentes. Là, on a parlé des ouvrages business liés notamment par exemple aux entrepreneurs, mais on publie aussi chez Vuibert des ouvrages de cours pour des étudiants qui sont en IAE, en école de management, en université de gestion. Et donc, effectivement, ce n'est pas les mêmes profils d'auteurs. C'est-à-dire que, par exemple, pour des ouvrages qui vont voilà, être plutôt liés à des cours, à des enseignements, c'est les cours qui sont effectivement donnés par l'auteur qui propose ou qu'on a été identifié qui propose sur le sujet en question. Donc, est-ce qu'il donne des cours sur ce sujet-là par rapport à la cible visée, c'est-à-dire le même niveau d'études pour les ouvrages donc plus dédiés aux étudiants et qui sont écrits par des professeurs, est-ce que dans leur approche ils ont une dimension pédagogique forte? Ça, c'est très important. Donc, ça, on en discute beaucoup avec eux en amont. Quel message ils vont passer auprès de leurs étudiants? Quel est le côté pratique aussi de cette approche-là? Parce que voilà, il faut de l'académique et du pratique. Comment ils animent leurs cours? Voilà. Donc, ça, c'est des questions qu'on a. Et puis, sur les ouvrages pro, là aussi, beaucoup de cas par cas selon les sujets. La légitimité, elle passe par effectivement, est-ce que je donne des formations sur le sujet? Est-ce que j'interviens souvent en conférence? Est-ce que si je suis très visible en ligne, je fais des vidéos sur le thème qui nous paraissent pertinentes et accessibles? Voilà, la dimension pour nous pédagogique, qu'elle soit pour les étudiants, pour les pros, elle est très importante. C'est-à-dire que souvent, on est là pour expliquer les choses et faire que l'auteur accompagne son lecteur pour mieux faire quelque chose. Donc voilà, une capacité à passer, comme le font les formateurs, à passer des messages. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on regarde beaucoup. Et puis, effectivement, sur les ouvrages pro-business, la visibilité des auteurs sur les différents réseaux sociaux, puisque avec ces communautés, on sait que les auteurs parlent en direct à des lecteurs potentiels qui cherchent à se former de différentes façons sur le sujet en question.
D'accord, oui, il y a un peu de tout finalement. Et je pense que le fait d'être inconnu en soi, c'est pas forcément un frein. Il faut juste démontrer qu'on a de l'expertise dans le domaine à travers les outils qu'on a à disposition. Hein. Voilà, le fait d'avoir un podcast, une chaîne YouTube et de délivrer du contenu régulièrement, c'est une preuve aussi de légitimité. Donc, ça, c'est une excellente
complètement.
Chose.
Ouais. Complètement, complètement. Et c'est vrai que là, par rapport à ces critères, effectivement, là, on n'ira pas... c'est pas un entretien d'embauche, donc on n'ira pas regarder le oui. CV ou les études associées. Comme tu dis, c'est la légitimité à un moment donné pour parler du sujet et faire en sorte que tout ça reste bien accessible par rapport au futur lectorat. Et c'est important.
Ouais. Alors d'un point de vue artistique, pour mon livre, c'est une graphiste qui s'est occupée non seulement de la couverture, mais aussi de l'intérieur, etc. Et donc elle s'est inspirée de mon site, de mon branding, et je trouve qu'elle a très bien retranscrit mon univers pour le coup. J'adore le livre. Je me demandais, est-ce qu'il y a des auteurs qui mettent la main à la pâte à ce niveau-là, ou est-ce que c'est toujours une graphiste qui va s'occuper de tout l'aspect visuel ?
Bonne question. Non, c'est vrai que alors. C'est toujours pour nous des graphistes qui s'occupent de l'aspect visuel. C'est vrai que donc on travaille avec pas mal de graphistes, donc soit de maquette intérieure ou de couverture. Certains font les deux. Dans ton cas, c'est Marthe Auréal qui s'est chargée de toutes les conceptions intérieures et de couverture parce qu'elle maîtrise effectivement l'ensemble de la chaîne de création, et donc ça c'est chouette, et puis les deux fonctionnent très bien ensemble du coup, donc ça c'est top.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est vrai que non, on passe nous par des graphistes avec qui on a l'habitude de travailler sur la création conception de maquette intérieure, ou des graphistes sur la création conception de couverture, et puis après il y a l'étape ce qu'on appelle de composition, c'est-à-dire une fois que ça s'est créé, ce texte il est intégré sur 200 pages, et donc ça c'est un autre travail. Mais sur tout ce qui est conception, effectivement, on passe par des graphistes. Ce qu'il arrive parfois, effectivement, c'est qu'il y ait des échanges plutôt avec les auteurs pour par rapport à des choix ou des envies, je dirais. Oui. Mais souvent, comme on s'inspire aussi, comme on l'a fait là, sur aussi les univers de l'auteur, l'idée c'est d'être en phase avec tout ça. Donc voilà, par exemple, ton ouvrage, évidemment, il y a une unité et une tonalité avec ton site, parce que sinon, ça n'aurait pas été réseau et ton univers, ça n'aurait pas beaucoup de sens, quoi.
Ouais, carrément. Et du coup, moi, j'ai trouvé, en tout cas, ça très intéressant, tu vois, d'un point de vue extérieur, comme je le disais dans l'épisode de podcast que j'ai enregistré à l'été 2022, je le mettrai dans les notes pour les personnes qui ne l'ont pas écouté. Et c'est vrai que j'ai découvert finalement toutes les étapes du processus. Alors, je ne sais pas si Alors, on était sur un rythme assez rapide de mon côté. Je ne sais pas si la plupart des auteurs doivent écrire un livre pour la rentrée suivante ou s'il y en a qui bénéficient de plus de temps en soi. Mais c'est vrai que ça a été condensé en quelques mois. Et au final, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et je trouve que ça m'a mis dans un dynamisme, tu vois, qui fait que en fait, j'y suis allée. J'avais pas le choix. J'avais pas le temps de me poser des questions, en fait. Le train était en marche. J'avais des trucs à faire, etc. Donc, tu vois, ça m'a aidé à me lancer dedans. Sans finalement avoir à me dire oui, mais si, ou ceci, ou cela. Tu vois, une fois que tu es dans le train, j'ai envie de dire, tu suis le mouvement et puis c'est tout, quoi. Tu es tellement porté, si tu veux, par toute votre équipe que du coup, tu te contentes de dire, en fait, il faut que je fasse ma partie du job.
Oui, alors, côté timing, effectivement, tu l'as fait sur un rythme, je dirais, intensif. Mais comme tu le dis, qui permet d'avoir cette dynamique. Et finalement, ouais. Ça prend quand même déjà pas mal de mois. Hein, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que je trouve que c'est la bonne façon de le faire pour avoir cette dynamique d'ensemble. Et c'est à peu près le timing, peut-être un petit peu plus parfois, mais c'est à peu près le timing qui fonctionne en tout cas assez bien. C'est-à-dire que quand on prévoit trop de temps, et ça, c'est un sujet qu'on a assez régulièrement avec les auteurs et certains peut-être se reconnaîtront en écoutant en écoutant l'épisode. En fait, je pense que quand on se donne trop de temps au départ, et ben de toute façon, il y a ce moment, alors qui peut permettre une réflexion, et puis tous les ouvrages selon les volumes évidemment, hein, ça peut être très différent, mais des fois, finalement, bah, y a un temps qui ne sera pas quand même utilisé. Et finalement, ouais. le temps d'écriture… Alors, ça permet aussi de mûrir les sujets. Hein, donc, je ne minimise pas. Et puis, évidemment, tous nos auteurs comme toi ont déjà une très grande activité professionnelle par ailleurs. Donc, c'est à concilier dans un planning. Mais ça, on l'explique au départ. Donc, mais une fois qu'on a accepté tout ça, hein, et qu'on a nous présenté les choses, même si c'est dur à peut-être à évaluer tant qu'on ne l'a pas fait, mais… Évidemment, on ne dit pas c'est facile, ça se fait en 2 minutes. Voilà, on n'a aucun intérêt à dire ça parce que ce n'est pas ce qui va se passer. Donc, c'est un travail d'accompagnement vraiment. Mais c'est vrai que si on prévoit un temps d'écriture trop long, ce qu'on connaît, enfin, et ce qu'on voit par habitude, c'est que finalement, eh ben, c'est plutôt le moment du démarrage de l'écriture qui est repoussé, je dirais, d'autant. Et finalement, ouais. ça se concentre souvent en quelques mois parce qu'à un moment, bah, faut y aller, quoi.
Mmh. Exactement. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton temps et d'avoir pu nous expliquer un peu comment ça fonctionne de ton côté, finalement, de la sphère. C'était très intéressant. Et puis, pour les personnes qui ont envie de découvrir mon livre, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Comme ça, vous pouvez aller découvrir tout ça. En tout cas, je te remercie encore, Émilie, pour ton temps et ta disponibilité. C'est un plaisir.
Merci, Safia. Écoute, ravie d'avoir partagé ce moment avec toi. Et j'espère avoir rendu le métier d'éditeur un peu plus clair.
J'en doute pas. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange, que ça aura permis de lever un peu le voile sur le métier d'éditeur et peut-être vous motiver, si votre objectif ou votre rêve est d'écrire un livre, eh bien à vous donner les moyens d'aller chercher ces opportunités. Vous avez les clés dans cet épisode. Maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.